merci évidemment au labo de m'avoir offert cette possibilité d'intervention. Donc effectivement, l'intervention, ça a été titré Terra Turba. Et c'est, ça avait évoqué évidemment les questions liées à une science, en fait, qui a marqué un artiste au plus profond, la thermodynamique, qui était en fait une des matrices de l'œuvre de Robert Smithson, un artiste américain des années 70. Donc voilà, je commence la lecture. En prenant acte du tournant épistémologique produit par le développement de la thermodynamique au XIXe siècle, j'aborderai les apports décisifs d'Ilya Prigorine, 1917-2003, dans la compréhension des phénomènes dynamiques et irréversibles de la nature. Je m'intéresserai plus particulièrement au concept de structure dissipative, que le physicien et chimiste belge d'origine russe, prix Nobel en 1977, s'efforcera de mettre au jour. C'est à partir des notions englobées dans ce concept, entropie thermodynamique, ressources, énergie, déchets, que nous élaborerons une réflexion autour de l'œuvre de Robert Smithson. L'artiste américain, féru de littérature scientifique, l'inventaire de sa bibliothèque nous en fait le témoignage, est toujours resté très au fait des avancées conceptuelles de son époque. Il développera une œuvre au plus près des questions portées par celle de Prigorine. Pour citer rapidement deux axes de la réflexion, tension générative et protéiformante de l'ordre et du chaos, vision de la nature comme force contaminante. Dans son ouvrage « Du monde clos à l'univers infini », l'historien et philosophe Alexandre Coiré a mis en évidence la métamorphose profonde qu'a eu à subir la pensée occidentale. Entre le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle, l'évolution des paradigmes scientifiques a fait basculer notre perception du monde d'un ensemble clos, d'origine aristotélicien, à une structure infinie, à l'origine newtonienne. Mais les conséquences épistémologiques de cette révolution ne se déploieront pleinement qu'avec la formalisation et le développement d'une nouvelle discipline, la thermodynamique, un siècle plus tard. Les mouvements étudiés dans la science dite classique, newtonienne, peuvent être perçus comme des mouvements périodiques, que l'on peut donc englober. Ils sont d'une certaine manière finis et prédictibles. Il s'agit par exemple de calculer précisément l'orbite d'une planète autour d'un astre, de prévoir une éclipse ou la trajectoire d'une comète. La thermodynamique s'empare à contrario des mouvements qui ne se referment pas et qui sont a priori irréversibles, car guidés par une succession d'événements sans retour. C'est cette nouvelle typologie de mouvement, appréhendée grâce à l'essor de la chaleur comme source d'énergie, que la science s'est penchée en ce tout début du XIXe siècle. Mais elle a rapidement buté sur la complexité de phénomènes qu'elle n'arrivait plus à formaliser. Comment rendre compte de la mécanique d'un fluide avec les mathématiques de Newton? Comment rendre compte de l'efficience d'une chaudière à charbon s'il est impossible de calculer la dispersion thermique de ces gaz? Boltzmann, dont on voit ici la pierre tombale, ou encore Maxwell, développeront dans la foulée des nouveaux outils conceptuels qu'on a appelés statistiques, thermodynamiques statistiques, pour appréhender les transferts thermiques, la dynamique moléculaire, et plus tard la nébulosité atomique. Les premiers concepts liés à la complexité thermodynamique se forgent à ce moment-là, notamment celui d'entropie, notion qui nourrira toute la pensée smithsonienne. Donc là, on voit en fait la pierre tombale de Boltzmann, qui est à l'origine de cette formule, qui est en fait une expression mathématique de l'entropie. Donc il l'a trouvée tellement puissante qu'il l'a fait graver sur sa tombe. Tombe en Autriche, je crois. Donc voilà, ouais, essayons de définir la notion d'entropie. L'entropie, on pourrait dire que c'est l'indicateur mathématique qui sert à mesurer le degré de désorganisation d'un système. Si ce système est clos, isolé, l'entropie s'élève nécessairement. Et plus elle s'élève, moins les éléments qui composent le système sont liés entre eux. Plus ils se désagrègent, plus ils se dispersent. Ce faisant, le système devient incapable de produire des effets mécaniques. Il retourne à un état homogène, proche de la stase, où les mouvements qui l'animaient s'estompent pour finalement ne plus du tout exister. Les thermodynamiciens appellent cet état l'équilibre. Prenons un exemple. Imaginons verser de l'eau chaude sur une série de glaçons dans un thermos, que l'on s'empresserait aussitôt de le refermer. Au bout d'un certain temps, il n'y aurait dans la bouteille plus que de l'eau tiède, à la même température en tout point. L'eau du système clos thermos atteint petit à petit un équilibre thermique. il n'y a plus qu'un seul liquide, à une température unique, uniforme, à la place d'une eau chaude dans laquelle baignaient auparavant des cubes de glace à température négative. La thermodynamique va donc faire naître l'idée suivante. Si un système est fermé à l'environnement, c'est-à-dire s'il n'est pas parcouru par des flux de matière et d'énergie, il tend à une forme de stase qui abolit toute possibilité de changement. Sa complexité informationnelle et structurelle s'affaiblit pour finalement s'anéantir. Si, à contrario, un système est ouvert à son environnement, c'est-à-dire s'il est parcouru par des flux de matière et d'énergie, le système évolue spontanément dans une suite d'événements qui tendent à le rendre à la fois dynamique et ordonné. La complexité peut alors se déployer dans sa structure. Finalement, ce que nous dit la thermodynamique, et je reviens ici à notre sujet, c'est que l'ouverture autorise la métamorphose quand la fermeture condamne à la stase. En explorant ces nouveaux territoires de complexité, la discipline va ainsi petit à petit, et à travers ses différentes branches, mettre au jour des liens de corrélation puissants entre flux d'énergie et émergence d'ordre, complexité et accroissement de l'information, métamorphose et ouverture à l'environnement, et irréversibilité des événements et naissance de la flèche du temps. Ilia Prigorine a été l'acteur majeur à partir du XXe siècle de la transformation de la thermodynamique classique, celle qui s'intéressait finalement qu'aux flux de matière à l'équilibre, gaz, liquide, solide, à une science des systèmes ouverts, c'est-à-dire à une science des systèmes hors équilibre. Une thermodynamique qui, et c'est là l'apport décisif de Prigorine, embrasserait toutes sortes de structures physico-chimiques, moléculaires, vivantes, géoclimatiques et encore macrocosmiques. Prigorine fait le constat que le cosmos regorge de systèmes hors équilibre, c'est-à-dire de systèmes physico-chimiques qui échangent ouvertement de l'énergie avec leur environnement. Il appelle ces échangeurs des structures dissipatives. Mais pourquoi dissipatives? Parce que ces structures dégradent, ou plutôt, comprenons-le comme cela pour l'instant, transforment l'énergie qu'elles reçoivent en ordre localisé. Pensez à un échangeur autoroutier qui absorberait l'énergie du trafic pour mieux le diffuser, l'échangeur autoroutier devenant un créateur d'ordre localisé en empêchant l'embouteillage. Je prends cet exemple à dessein car, et c'est ce qui découle des mécanismes de Prigorine, que Prigorine a mis au jour, les structures dissipatives sont observables aussi bien à des échelles physiques, biologiques que culturelles. Elles ont une dimension fractale. Un tourbillon dans une rivière, un ouragan de force 5, sont des structures dissipatives physiques. Elles se nourrissent de l'énergie cinétique de la rivière ou de la masse d'air chaud des océans pour créer un ordre localisé qui prendra la forme d'un vortex. Le vivant sous toutes ses formes est un développement kaléidoscopique de structures dissipatives, des premières cyanobactéries photosynthétiques au baobab, en passant par le grand singe. Ces formes déploient des ordres localisés. L'homme, à travers son développement culturel, a été le vecteur de l'émergence de nouvelles typologies de structures dissipatives. Une voiture, une ville, sont des ordres localisés dissipatifs. Ces systèmes que Prigorine appelle donc structures dissipatives sont de véritables machines à transformer l'énergie en ordre. Mais ce que nous dit la thermodynamique hors équilibre de Prigorine, et c'est ce qui va alimenter la suite de mon propos, c'est que toute structure dissipative, pour se maintenir, doit nécessairement importer de la ressource et exporter du déchet. Des étoiles aux microbes, à une Mercedes AMG V8, toutes ces structures dissipatives s'auto-entretiennent en important de la matière relativement bien ordonnée, des ressources d'assez basse entropie, et en exportant de la matière ou de l'énergie désordonnée, les déchets, de haute entropie. En conséquence, et c'est ici que la deuxième loi de la thermodynamique est redéployée par Prigorine pour compenser l'ordre local, créé et concentré au sein de la structure, l'environnement doit mécaniquement se désorganiser, se dégrader. Comprend très vite ce qui menace à terme toute structure dissipative si son environnement physique ne peut pas se renouveler. la matière et l'énergie de l'environnement va progressivement évoluer négativement jusqu'à ne plus pouvoir être utilisée positivement comme ressource. L'ordre local constitué se désagrège, puis s'effondre. La structure disparaît. Donc, pour le dire plus prosaïquement, ce qui menace la structure disputative, c'est d'épuiser les ressources de son environnement et de les remplacer par ses déchets. Mais la longue chronologie de l'évolution cosmique nous le prouve. Le déchet de l'un peut devenir la ressource de l'autre. Cette dynamique devenant précisément la source des métamorphoses. Une étoile comme notre Soleil produit des quantités considérables de déchets énergétiques sous forme de rayonnements électromagnétiques. La lumière, déchet thermodynamique du système étoile, du système dissipatif étoile, a ainsi permis aux premières cyanobactéries photosynthétiques terrestres d'émerger. Et le déchet thermodynamique de la cyanobactérie photosynthétique, structure dissipative, l'oxygène, son déchet, a lui aussi permis bien plus tard, au fil des accumulations atmosphériques, l'émergence de la vie aérobie dont nous sommes les héritiers. Le système terrestre, d'autres l'appellent Gaïa, est donc un fabuleux enchevêtrement de structures dissipatives, imbriquées les unes dans les autres, qui a su rapidement, par une succession d'événements contingents, exploiter une avalanche de ressources régénérées et protéiformantes. Ce mécanisme de métamorphose du déchet en ressources a autorisé la constitution de structures de plus en plus complexes et ordonnées. La vie a émergé et s'est développée par ce mécanisme de transmutation. Mais l'entropie de la structure géophysique Terre surgissait mécaniquement par séquence, rythmant des cycles de complexité et d'effondrement. Le déploiement proliférant de la matière vivante, ses métamorphoses, s'est donc faite sous sa menace. L'entropie des systèmes a provoqué des ruptures brutales, sources de bifurcation. À ce propos, Prigorine les appelle des événements. La stabilisation du planétoïde terrestre dans la zone d'habitabilité du Soleil est un événement. La comète qui anéantit les dinosaures est un événement. La naissance d'Einstein ou d'Hitler sont des événements. C'est-à-dire le fait que ces phénomènes se produisent ou non dans un système change la trajectoire spatio-temporelle du système. De graves crises des déchets ont ponctué l'histoire évolutive de notre planète. Elles sont constitutives de ce que l'on vient de définir, des événements bifurcatoires. L'atmosphère terrestre telle que nous la connaissons aujourd'hui est le reliquat, le résidu recyclé de l'une d'entre elles. Revenons juste un instant sur l'histoire des cyanobactéries. L'oxygène atmosphérique était en quantité infinitésimale depuis la formation de la Terre il y a 4,5 milliards d'années. Mais un événement se produisit autour des 2,5 milliards d'années. La catastrophe de l'oxygène. La prolifération des cyanobactéries, qui transforment donc la lumière en oxygène par photosynthèse, a provoqué un rapide accroissement de la quantité de ces gaz dans l'océan primitif. L'oxygène, déchet métabolique de la cyanobactérie, ne parvenait plus à être fixé par les minéraux marins et à être évacué par une tectonique des plaques, alors au ralenti. Son accumulation a provoqué une extinction massive de ces mêmes bactéries, étouffées par leur propre développement proliférant. Certains ont résisté au cataclysme en se forgeant des carapaces de calcaire. Pensez aux stromatolites. Mais ce premier enrichissement brutal de l'atmosphère en oxygène allait rendre biologiquement possible la sortie des eaux. Les premiers organismes aérobies, donc comme je le disais tout à l'heure, dont nous sommes les descendants, étymologiquement, donc c'est la vie dans l'air, aérobie, allaient bientôt se développer grâce à l'apport de cette ressource dans l'atmosphère. Et en développant une organisation métabolique inédite, aérobique, la vie allait déployer de nouveaux territoires de diversité et de complexité. La forme fougère, la forme dinosaure, la forme insecte, la forme baleine, la forme oiseau, la forme australopithèque. Nous pouvons donc aisément appréhender à travers cet exemple la dialectique ressource-déchets qui anime ontologiquement les questions liées à la métamorphose des systèmes. Le déchet devient le véhicule possible d'un transfert des états physiques. C'est ce qui découle de la théorie thermodynamique prigorienne. La compréhension de ces phénomènes doit nous interroger sur la période que nous traversons collectivement. L'Anthropocène, qui marque le moment d'une crise systémique comparable dans les mécanismes de son fonctionnement à celle de la crise de l'oxygène, est comparable à celle de la crise de l'oxygène. Faisons juste l'effort imaginatif de remplacer la lumière par le pétrole, les sociétés de cyanobactéries par la société humaine, l'oxygène par le CO2. Et nous avons là une partition tout à fait identique. L'anthropocène que nous pourrions réorthographier à l'aune du concept d'entropie est bien une crise thermodynamique des déchets et de la complexité. Elle est liée à l'afflux massif, soudain et quasi libre, d'énergie fossile et à sa transmutation en structures techniques ou sociétales tangibles, de plus en plus complexes, qui sont à la fois productrices d'ordre, une centrale nucléaire, un supercalculateur, un régime politique, une Mercedes encore AMG V8, une tablette tactile, et de désordre, les carcasses de Tchernobyl ou de Fukushima, les résidus chimiques d'une mine d'argent, un nuage de nanoparticules volatiles, une guerre civile, les rejets massifs en CO2 d'une usine de ciment ou d'un pot d'échappement, un baril de MOX usagé enfoui dans la Manche. La question que pose l'anthropocène est donc la suivante. Comment allons-nous métamorphoser les résidus anthropiques de notre développement pour continuer à unifier et à redonner notre structure? Mais la thermodynamique, un peu à la manière de la figure du dieu Janus, nous renvoie à une question plus sourde et plus inquiétante, évidemment encore sans réponse. Si par malheur nous ne parvenions pas à franchir collectivement cette nouvelle étape de complexité, toi ou qui exploitera dans le futur les résidus métaboliques de notre existence? C'est un peu aussi finalement la question que déploie la série d'assemblages que j'ai proposé à l'IS. Et je voulais vous montrer, là, pour faire la transition avec Robert Smithson et pour faire une mini-pause, une petite vidéo qui montre en fait comment un milieu non anthropisé est contaminé par une matière anthropique, une matière anthropique en faisant référence à Anthropos, à l'homme. En l'occurrence, c'est une vidéo qui synthétise en fait le développement des débris spatiaux